carnet de voyage. Une invitation. Can't
anybody see? Bonjour amis auditeurs de RCF Alpes-Provence. Nous recevons pour ce nouveau carnet de voyage Nicolas Fragiacomo. Bonjour.
Bonjour à tous.
Nicolas, vous êtes un grand voyageur. Vous revenez de Mauritanie. Vous allez repartir en Laponie.
C'est exact.
Et là, cette fois-ci, on va parler de l'Oural polaire. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre. Il y a trois Ourals, une partie en Sibérie, un pied en Occident, un pied en Asie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette destination?
Ben, c'est une destination un peu étrange parce que c'est vrai qu'on est à cheval entre les deux continents. On est à l'extrême nord de l'Europe, hein, tout là-haut. Puis ce qui nous a amené là-haut, c'est surtout d'aller à la rencontre d'un peuple qui n'existera bientôt plus, qui sont des éleveurs de rennes. Et leur particularité, c'est d'être nomades et de vouloir rester nomades.
Et en plus, ils ont un nom incroyable, ils s'appellent les Nénettes.
Oui, c'est les Nénettes. Bon, il y a trois, les Nénettes, le peuple le plus connu, c'est celui qui se déplace sur la péninsule de Yamal, qui est tout au nord, encore un peu plus loin. Et nous, on était sur une partie où le peuple, c'est des commis, donc c'est des anciens russes qui se sont sédentarisés, qui ont pris cette vie nomade. Et qui y sont restés depuis des générations maintenant, donc c'est très intégré au territoire.
Vous m'aviez dit que vous aviez un souvenir, c'était celui de trois tchoums au coucher de soleil. Alors les tchoums, c'est pas des nains, c'est pas des éternuements.
Non, pas du tout.
C'est un truc beaucoup plus pratique.
C'est l'appellation de leur habitation, donc qui ressemble à un tipi. Et oui, cette image, elle est restée gravée parce qu'on venait de faire pratiquement 48 heures de voyage entre l'avion, le train, le bateau, une chenillette qui nous a trimballés dans des pistes impossibles pendant plus de 80 kilomètres.
Ouais, et je crois qu'on met 6 heures de trajet pour faire 80 kilomètres.
Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ballotté comme dans une machine à laver.
Ouais, ouais. Et c'est des chenillettes russes en plus, ça doit être assez...
Ouais, c'est costaud, ouais.
Assez costaud. Ouais.
Vous n'avez pas inventé l'amortisseur encore à cette époque.
Et du coup, il y a quasiment 24 heures de voyage pour arriver jusque là-bas, non?
Oui, un peu plus, ouais. Et donc, cette image dont j'ai parlé, c'est... on est descendu de cette chenillette là où on était... enfermé un peu dedans depuis pas mal de temps. Première chose qu'on a vue, c'est les lumières du couchant et ces tipis là qui étaient juste éclairés par une petite lampe dans des lueurs de dingue dont rêvent tous les photographes.
Et ouais.
Ouais, on était arrivés, quoi.
Oui, parce qu'on n'a pas dit, vous êtes photographe, bien sûr. Donc, vous faites des voyages.
En plus, oui.
Et accompagnateur.
Oui.
Donc, vous faites des voyages qui peuvent être à base de stages photo ou tout simplement à base d'aventure pure, de rencontre avec les gens.
C'est la rencontre en priorité, que ce soit avec les gens que j'encadre ou les gens que je vais rencontrer. C'est la priorité, c'est la rencontre. Le reste, ça se fait tout seul après.
Pendant ce voyage, c'est un voyage que vous avez fait pour préparer d'autres voyages où là vous serez avec des clients?
Oui. Alors oui, c'était un voyage de reconnaissance puisqu'on ne part pas dans des destinations aussi lointaines sans savoir où on va mettre les pieds, hein, surtout lorsqu'on veut faire ça au niveau professionnel.
Vous travaillez avec un guide russe qui vous a préparé un petit peu le contact avec les nomades?
Exactement, c'est un guide donc de Saint-Pétersbourg, mais qui connaît toute la Russie et toute l'Asie en général. Il a des connaissances incroyables. Et donc il avait déjà eu en tête cette idée d'aller à la rencontre de ces personnes nomades.
On a tendance à penser que les nomades n'ont pas vraiment envie de rencontrer des touristes, entre guillemets, venant de l'Occident, enfin, venant de la France. Et en réalité, ils ont accepté rapidement. Enfin.
Là, il faut se débarrasser de notre façon d'occidentaux, de regarder les autres. Quand on va voir des gens comme ça, ils sont à l'écoute, ils sont très contents qu'on aille les rencontrer. Ils nous ont offert des choses que... avec rien, ils ont rien, hein, ou pas grand-chose. C'est incroyable, hein, en humanité. J'en suis toujours pas revenu. Dans ma tête, je suis toujours là-haut. L'accueil, c'est la poignée de main, c'est franc. Le regard, c'est toujours des regards souriants. Ils sont venus nous chercher parce qu'à un moment, on avait notre structure pour pouvoir être autonome, mais ils n'ont pas voulu qu'on mange dans notre coin. Ils nous ont invités presque toutes les nuits, nous ont invités dans leur tchoum. C'est des moments très forts, oui.
Je me rappelle aussi que dans les tchoum, il y a des draps pour séparer, pour faire des pièces.
Oui, c'est ça. Oui, on rentre donc il y a la partie vie de la journée. Donc on peut se représenter des images d'un tipi traditionnel, d'une yourte par exemple. Et lorsqu'il est l'heure d'aller se coucher, donc au milieu de la pièce, il y a un poêle à bois. Donc en général, il y a deux familles qui vivent par tchoum. Lorsque c'est l'heure d'aller dormir, en tirant deux, trois petites ficelles avec des nœuds, il y a des draps, des couvertures qui tombent de chaque côté, qui délimitent des chambres, en fait. Et ce qui permet de garder la chaleur, parce qu'il ne faisait pas très froid, mais c'était le zéro n'était pas très loin.
Quoi. Alors, eux, en réalité, tout tourne autour du renne, quoi. Il y a même une période de migration. Vous allez tomber pile à cette période.
Oui, c'est le but du voyage, c'est d'aller à la rencontre pendant qu'ils migrent. Donc, ils ont deux grandes migrations. Il n'y a pas de première, il n'y a pas de deuxième, c'est les saisons qui font ça. Celle de l'automne et une au printemps. Donc là, nous, on a privilégié celle de l'automne parce que celle du printemps, il reste encore énormément de neige. Il peut faire encore très froid et c'est difficile, encore plus difficile de se déplacer qu'à notre période.
Ils se déplacent avec des traîneaux. Donc ça marche à la fois sur la neige et à la fois pour l'automne.
Ah oui, là, ils sont très adaptés à leur milieu. Hein. C'est des traîneaux qui sont tirés par des rennes.
Ça fait un peu Père Noël, oui.
Ah oui, carrément, oui. C'est carrément le Père Noël à l'état brut.
Vous m'aviez dit que chaque traîneau a sa fonction. Ils les mettent dans un ordre spécial pour que l'installation soit rapide.
Oui, c'est ça. Mais il y a une hiérarchie dans les familles. Hein. Il y a un chef de groupe,
ouais.
Voilà, qui prend les responsabilités et les décisions prises collectivement. Mais c'est lui qui les assume. Et il y a toute une hiérarchie dans les familles, en fonction de l'âge, en fonction du nombre de rennes qu'ils ont. Et alors après, lorsqu'ils vont démonter le camp, chaque traîneau a une particularité, c'est-à-dire qu'on va démonter en premier et ranger en premier ce qui servira le moins possible, le plus tard possible, pour finir avec le tchoum qui sera dans un traîneau où, quand on va s'arrêter, tout le camp sera remonté en une demi-heure.
Et les rennes, eux, ils suivent un petit peu, ils mangent du lichen.
Alors le lichen, ils mangent le lichen surtout l'hiver parce que lorsqu'il y a de la neige, ils ont une adaptation avec leurs pattes qui leur permet de racler la neige et d'aller chercher le lichen qui est au sol, oui. Après, c'est des ruminants, donc ils mangent comme nos animaux de montagne. À la bonne saison, quoi.
Ils se chauffent avec des brins d'aulne parce que justement ça ne risque pas d'enflammer le tchoum.
Ben ça c'est leur adaptation, hein, parce que bon, à l'époque ils avaient des tchoums qui étaient en peau de renne et aujourd'hui donc le peau de renne sert surtout pour les tchoums d'hiver. Donc ça leur permet, ça leur donne l'isolation de leur habitation. Et puis l'été, par exemple, pour avoir des camps plus légers, ils ont des tchoums avec des bâches. Donc cette bâche, lorsqu'il y a des grosses brindilles avec du bois trop sec, lorsqu'elle sort de la cheminée, elle risque de tomber sur la bâche et de faire de la trouer, donc de la brûler. Donc l'avantage des petites brindilles, ça se refroidit très rapidement à la sortie de la cheminée, ça s'évapore, on va dire.
Quoi, ça, c'est sécurisé.
Ouais, là-bas, quand on est à deux jours du premier réseau téléphonique pour donner l'alerte, on ne fait pas les malins. Ouais.
J'ai compris aussi qu'il y avait une répartition ancestrale des terres. Ils n'ont pas de propriété, vraiment.
Non, j'ai pas compris ça. Ouais. Je pense que, par contre, de tradition, chaque famille passe leur troupeau.
Ouais, voilà. Ouais.
Donc, ça se mélange très rarement. Quoi.
Et ils sont plutôt orthodoxes.
Oui, enfin bon, ouais, ils sont orthodoxes et chrétiens en même temps. Enfin,
du coup, dans les tchoums, on retrouve des icônes.
Oui, ah, ça c'est la première chose. Il n'y a que ça d'ailleurs. Dans le tchoum, vous rentrez, il y a le poêle à bois et derrière le poêle, il y a toute une rangée où il y a des icônes. Et à côté de l'icône, la pendule pour marquer l'heure ou
ah ouais. Ça, c'est, le temps. Ça paraît incroyable hein, pour ouais. Des nomades d'avoir une pendule.
Oui, c'est ça. Mais bon, ils sont très adaptés pourtant à la qualité de vie, à l'écoute de la nature. Donc oui, c'est surprenant, ouais, cette pendule.
Et l'éducation se fait un peu avec le système d'école cause. Les enfants vont à l'école.
Ils vont à l'école, oui.
Mais ils vont à l'école assez loin quand même.
Ah ben à l'école, oui, ils vont. Donc il y a les jeunes restent jusqu'à l'âge d'être scolarisés, ils restent dans les familles à suivre.
Les troupeaux.
Les troupeaux. Ouais, il y en a un qui était dans la famille que l'on a suivi là pendant les 4 ou 5 jours qu'on était là-haut, qui était juste craquant là. Si vous allez regarder les photos sur le site, il est trop beau.
On laissera votre site tout à l'heure en fin d'émission. Ouais. C'est vrai qu'il y a des photos magnifiques.
Ouais,
et puis vous avez tout réparti par thème, donc on peut se facilement se retrouver dans le site.
Facile à faire des photos là, dans ces conditions.
Mais il y a des photos qui sont à la fois des portraits, à la fois des paysages, parce que la toundra à l'automne, elle est verte et rouge.
Oui, et jaune.
Et jaune.
Et orange. Il y a toutes les couleurs.
Et il y a même des aurores boréales.
Eh oui. Ça, ouais, c'est la magie aussi de ces nuits, des nuits polaires, hein, puisqu'on est au-dessus du cercle polaire. Mm. Donc on est 50-60 kilomètres au-dessus du cercle polaire. L'endroit idéal lorsque les conditions sont favorables pour passer des nuits magiques.
On va faire une petite pause musicale avec un morceau que vous avez réussi à trouver grâce à votre guide russe.
Oui.
Sur Internet, j'ai vu que les nomades jouaient avec des outils aussi. Carrément avec des cuillères, des scies, des faux, enfin un peu de tout quoi. Mm. Vous avez en projet, d'ailleurs, bon, on en parlera tout à l'heure, d'aller voir une fête où justement ils jouent de la musique et ils s'habillent.
Ça va être une rencontre extraordinaire.
Хо-хо-хо-хо-хо-хо, цукуйтай, яхятай, яхятай, тайбутас, нямай нинисяу. Хо-хо-хо-хо, нюкусей, ятых мамэт, китай, яхям, тайбутас.
Rebonjour amis auditeurs, nous sommes toujours avec Nicolas Fragiacomo et toujours dans l'Oural. Donc le projet, ce serait de revenir au moment où il y a cette fête particulière des nomades, où ils se mettent à danser et à habiller leur troupeau.
Ah oui, ça c'est en bonne voie, oui. Alexei, mon copain guide de Russie, m'a proposé ça l'autre jour. Donc, surtout que derrière, il y a un petit plan ski de montagne et tout. Donc, je ne pourrais pas résister.
Oui, parce qu'en altitude, ce n'est pas très très haut. C'est à 1000 mètres.
On n'est pas très très haut. Mais bon, il faut s'imaginer qu'on est au-dessus du cercle polaire. Donc, les mètres au-dessus de zéro, ils coûtent cher en température.
Oui, c'est l'équivalent de 2002 chez nous. Quoi.
Grosso modo, oui. Ouais. Voilà. Donc ce qu'on dit dans nos Alpes, c'est que lorsqu'on fait 1000 mètres de dénivelé, quand on va le faire vers le nord, c'est l'équivalent de 1000 kilomètres en allant vers le nord pour trouver des conditions identiques. Mm-hmm. L'Oural, c'est à 8000 kilomètres de chez nous. Ah ouais. Donc voilà.
Vous organisez des séjours photos et vous organisez aussi des voyages avec une agence qui s'appelle Terre Oubliée.
Oui, c'est plutôt Terre Oubliée qui fait appel à mes compétences et je les en remercie parce que c'est des expériences extraordinaires à chaque fois.
Oui, Terre Oubliée, c'est là où ne vont pas les autres.
C'est comme ça
qu'ils
se définissent, exactement, oui.
Et ils organisent des voyages en très petits comités.
Là, j'arrive de Mauritanie où je suis allé faire des reconnaissances. Pour faire un voyage spécifique de photos, cette fois dans les dunes du sud de Dakar. C'est juste incroyable, là c'est pareil.
Ouais, c'est magique.
Des lumières de dingue, une ambiance de fou, c'est des choses à vivre. Monter un voyage comme ça la première fois, on n'a pas des dates d'hébergement, on n'a pas des dates d'avion, on n'a pas de réservation d'avion et tout, ça va être un peu compliqué, mais qui fait avancer les choses. Donc,
on
y croit. Ouais. Un peu.
Par contre, il y en a un au Laponie qui, lui, est déjà bien fixé.
Celui-là, il est fixé. C'est la période de la fin, ce qu'on appelle le Camos, là-bas. Ouais. C'est la fin de la nuit polaire. Et donc, le soleil repasse sur l'horizon et C'est des mélanges de lumière qu'on ne peut pas louper, quoi. Qui se mélangent avec des couleurs de bleu métallique dans des arbres qui sont enneigés. J'ai pas les mots. Et les aurores boréales, bien sûr, qui sont attendues, puisque c'est la période la plus favorable pour les observer.
En dehors de ces voyages au long cours, vous-même, vous organisez à la demande des voyages sur le 05, sur les Hautes-Alpes.
Exactement. Donc, à la demande pour des passionnés de montagne et de photos, je l'ai fait individuellement. Et j'ai un programme également où on va par plusieurs jours dans nos montagnes avec des hébergements ou en gîte ou en refuge. Ça dépend l'esprit de ce séjour.
Là, c'est l'esprit plutôt trek et plutôt nature.
L'esprit trek, c'est plutôt lorsqu'on va dormir en refuge dans la vallée de la Haute-Clarée. Donc en hiver et tout, avec des lumières. Et la vie du refuge l'hiver, c'est quand même assez spécial. Et puis les autres qui sont beaucoup à partir d'un hôtel ou d'un gîte dont j'ai choisi les endroits très précisément. Et c'est souvent des amis qui les tiennent et où on a un accueil qui est irréprochable. Et ce qui permet d'aller faire plutôt... c'est pas un séjour où on va marcher vraiment, je vais mettre mes participants dans des conditions pour arriver à trouver des lumières difficiles, de se mettre près d'un torrent, d'aller chercher des animaux si c'est possible.
C'est ça aussi, pouvoir patienter pour réussir à avoir des animaux, être aux bons horaires.
Et d'être aux bons horaires, oui, ça impose quelques contraintes.
Petit groupe.
Oui.
On peut se permettre de faire ça.
Oui, jamais plus de 6 personnes en général.
On va laisser le site sur lequel on va tout retrouver.
Oui, volontiers. C'est www.nicolasfragiacomo, donc tout attaché.com.
Sur ce site, on retrouve toutes les photos, on retrouve aussi le programme, on peut s'inscrire.
Exactement, vous pouvez me contacter juste pour le plaisir de contacter, il n'y a pas de problème.
Il y a quelque chose que j'ai vu aussi sur ce site, c'était le bip. Donc c'est le bonheur immédiat brut, je crois. Il faut préférer le bip au PIB.
PIB. Ça correspond à ma philosophie.
À l'état d'esprit, à la philosophie. Ouais. Bon, donc merci de nous avoir donné cette philosophie-là et d'être venu nous parler de ce voyage.
Ben c'est un grand plaisir pour moi.
Carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't anybody see?